Alors, ce Radio Bac, comme je l'expliquais en début d'émission, fait que nous recevons aujourd'hui Henri Martin. Alors, tout d'abord, maire de Port-la-Nouvelle. On va commencer par les mandats porteurs, fondamentaux, si je puis dire. Mais on va tout de suite, évidemment, déboucher sur l'aglo. Alors, Henri Martin, vous êtes maire depuis... Vous avez fait déjà... Vous finissez votre quatrième mandat. Vous n'avez jamais fait mystère que vous vous représenteriez, et c'est clair, vous vous présentez pour un cinquième mandat. Avec, alors là, c'est le côté un petit peu anecdotique et amusant, avec un concurrent, une autre liste, qui est, alors, à son corps défendant, j'imagine, devenu notoire et célèbre dans la France entière. C'est un jeune candidat du Front National qui a été repris à la télévision et sur les réseaux sociaux d'une façon un petit peu particulière. Qu'est-ce que cela vous inspire, Henri Martin ?
Bonjour tout d'abord à vous deux. Et vous dire d'abord que je suis pénalisé aujourd'hui parce que d'ordinaire, le samedi à 9h, je me fais un devoir d'ouvrir votre radio pour écouter vos émissions. Mais donc aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas me livrer à mon exercice favori.
Voilà, mais c'est vous qui êtes sur la scène.
Je vais vous dire si je l'apprécie. Oui, effectivement, bon, ça n'a rien de joyeux, cette candidature, parce que une candidature à une municipale, c'est quelque chose de sérieux.
De sérieux,
et je crains qu'on passe un peu à côté de l'objectif. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur ce candidat.
C'est le seul, jusqu'ici ?
Voilà, qui apparemment est le seul, jusqu'à maintenant, oui.
Bon, alors, on donne rendez-vous au soir du premier tour pour voir le score qu'Henri Martin aura réalisé. Bon, un mot quand même sur Port-la-Nouvelle. D'abord, c'est une des grandes communes du département, de l'aglo. Vous êtes vice-président, encore aujourd'hui, au Grand Narbonne, chargé des grands projets, et notamment, parmi les grands projets, là aussi, ce n'est pas un mystère, enfin, les citoyens le savent, il y a l'extension du port de la Nouvelle, en vue d'abord d'accueillir des navires plus gros, mais surtout aussi de monter des éoliennes flottantes qui vont être exposées en mer dans une ferme expérimentale. Donc tout d'abord, l'extension du port, commençons par, on approfondit pour accueillir des plus grands navires, c'est bien ça ?
Oui, et surtout on amène historiquement, c'est une progression historique, puisque le port de la Nouvelle, si on fait un retour en arrière, dès l'Antiquité, les bateaux rentraient soit par bâbord, soit par tribord de l'île de Coquaine, l'île de Sainte-Lucie, en s'enfonçant vers la nautique Narbonne. Lorsque la taxe au Moyen-Âge, l'Aude, s'est mise en colère, puisqu'on a l'air de vouloir signifier que les colères climatiques d'aujourd'hui ne sont que contemporaines pour des raisons de réchauffement ou de réféfiction.
Oui,
à l'époque aussi, on oublie, il y a eu des grandes crues, et lorsque l'Aude a retrouvé son lit, d'abord, ce ne fut pas le lit initial, elle a retrouvé un lit qui est plus au nord, du côté de Fleury et vers l'Hérault, et ensuite des tonnes et des tonnes de matériaux ont été charriés, au point que les bateaux de l'époque, les galères, ne pouvaient plus rentrer, ils n'avaient pas assez de tirant d'eau.
Donc, et ça, c'est le 14e siècle.
Absolument. Et donc les installations, à partir dès 1704, Charles Goudaberchère, illustre Narbonnais, a donc posé la première pierre du gros de la Nouvelle, c'est-à-dire que l'activité portuaire s'est portée vers la mer. Et puis au fur et à mesure de l'avancée des technologies, les bateaux ont été plus gourmands en tirant d'eau et en longueur, en tonnage, et même l'histoire du port de la Nouvelle a commencé à bouger. En 1905, c'est donc Adolphe Turel, qui est un ministre né à Ornézon, qui vient inaugurer la première darse du port. Ensuite, c'est la darse pétrolière qui va arriver. Ensuite, c'est la darse de pêche. Et aujourd'hui, le tonnage des navires qui sont appelés à fréquenter et à être concurrentiels des ports comme le nôtre ne se suffira plus. Et les navires actuels, également, en termes de pollution, ne sont plus du tout dans le coup. Donc il fallait frapper un grand coup, soit observer le port mourir de sa plus belle mort dans les 10-15 ans à venir, soit l'ouvrir à un trafic différent et l'ouvrir à l'avenir pour les 150 années ou 200 années à venir.
Et alors, et pourtant, vous avez encore des opposants qui viennent manifester contre l'extension du port avec le slogan un petit peu tiré par les cheveux « balance ton port » avec un T à la fin. On avait même annoncé la présence symbolique de Monsieur Beauvais. Je crois qu'il s'est dédié au dernier moment.
Il devait avoir du boulot, parce que M. Beauvais est donc député européen, et certainement que ça n'a pas eu le temps, il n'a pas permis de venir. Toujours est-il que, bon, je crois quand même que là, il faudrait que ces personnes aient un comportement un petit peu plus raisonnable. Il n'y a pas plus garantie de sécurité que ce port en termes d'environnement. Lorsque la décision de l'extension du port a été prise, avec Georges Frêche, il y a pratiquement 14 ans maintenant, 13-14 ans, nous avons en même temps contractualisé une réserve naturelle régionale, ce qui signifie que le port, l'activité de plateforme de stockage de la zone reculée du port, touche et limitrophe à une réserve naturelle. Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il n'y aura pas des permis de construire accordés pour des cheminées qui fument, des industries qui abîment l'environnement. Donc ça va être un port propre, tant au niveau des trafics que du stockage. Je parlais tout à l'heure des navires. On montre les navires de croisière qui vont dans certaines villes italiennes, Venise ou autres, et qui dispensent une pollution importante à l'environnement.
Tout près aujourd'hui, des villes chez nous, et des habitations.
Oui, mais chez nous, toutes aux proportions gardées, les bateaux que nous recevons aussi ne sont pas très vertueux en termes de consommation énergétique. Demain, cette flotte de navires va disparaître. Demain, c'est dans 20 ans. Dans 20 ans, plus de 50% de la flotte mondiale va être revue et éliminée du circuit dans toutes les mers du monde. Ils ne seront plus reçus. La marchandise qui va être transitée par les bateaux aura une traçabilité et on précisera non seulement sa provenance, mais la façon dont elle a été transportée et transbordée. Donc, nous aurons des bateaux plus longs qui, lorsqu'ils arriveront à quai, seront branchés directement à l'électricité sur le bord à quai. C'est puis leurs propres moteurs qui vont alimenter. Et puis demain, ces nouvelles technologies sont les moteurs à hydrogène. Et qui, peut-être même, hydrogène sera fabriqué sur le port de la Nouvelle.
Alors, justement, il y a le second projet baptisé EOLMED. Ce sont ces fameuses éoliennes flottantes en mer. C'est un projet porté par l'État qui suit son chemin. Où en est-on aujourd'hui, Henri Martin ?
Porté par le privé et subventionné par l'État au travers de garanties de rachat d'énergie. Deux projets donc offshore, l'un au large de Glissan, l'autre au large de le Cap de Barcarès, qui continue à progresser. L'équipementier, le turbinier a été changé, ce qui fait que plutôt que d'avoir 5 machines à chaque projet, on devrait réduire le nombre de machines en augmentant la puissance. En clair, une ferme éolienne expérimentale pourrait, à terme, ravitailler en énergie une agglomération comme celle de Narbonne. C'est vous dire si les puissances qui vont être produites sont intéressantes. Et par là même, lorsque une centrale nucléaire, une centrale thermique, même l'industrie éolienne, l'activité éolienne produit de l'électricité, il y a des zones de non-consommation, en particulier les heures creuses, pendant lesquelles on ne peut pas stocker l'énergie et où elle n'est pas consommée. L'intérêt de cette opération et de ce qui se profile sur le port de la Nouvelle, c'est que cette énergie non consommée pourra être mise à profit pour fabriquer, isoler l'hydrogène de la molécule que nous connaissons aujourd'hui. Donc cette électricité travaillera la nuit et c'est une forme de stockage indirect de l'énergie auquel nous allons assister.
Ah oui, donc quand on ne fournira pas d'électricité à consommer immédiatement, par électrolyse on fabriquera
de l'hydrogène qui est stockable.
Et qui alimentera les moteurs des bateaux.
Des moteurs des trains, parce que je crois que la région est engagée très fortement sur ce process et donc s'inscrit dans un développement durable. Je boucle la boucle pour dire que ceux et celles qui manifestent encore contre la création du port, je crois qu'ils devraient un petit peu se calmer et concevoir qu'une telle opportunité d'investissement économique sur le secteur doit être prise avec beaucoup plus d'enthousiasme et beaucoup moins de réserve que ce qu'ils en ont.
Ouais. Donc ils auraient, comme on dit familièrement, une guerre de retard. Enfin, une technologie de retard.
Affectueusement, certainement.
Alors maintenant, venons-en à votre présence, la raison de votre présence, comme je l'expliquais au début, c'est aussi de s'intéresser au Grand Narbonne. Michel a longuement tout à l'heure expliqué comment les choses fonctionnent. Vous-même, vous êtes aujourd'hui encore vice-président de l'agglomération, donc vous en connaissez le fonctionnement. Mais vous vous intéressez évidemment à l'avenir en sachant très clairement que, eh bien, après la municipale, dans la poupée russe, on va sortir une deuxième de l'intérieur, qui sera celle de l'agglo. Alors, vous avez travaillé depuis un certain temps. Alors, il y a des choses, peut-être, que vous ne pourrez pas dire parce qu'elles doivent rester confidentielles, et on le comprendra. Mais il y a des choses, quand même, que vous pouvez dire aux citoyens pour les éclairer, Henri Martin.
Mais comme vous l'avez dit, c'est un suffrage universel indirect qui met en place les élus communautaires, il est direct parce que sur les bulletins de vote que vont recevoir nos concitoyens, il y a la liste pour les municipales et sur le côté, je mets droit parce que je visualise le bulletin Nouvelle-Loire, la liste de celles et ceux qui seront appelés à siéger à l'aglo en cas d'élection de la liste. Voilà, donc c'est direct.
Mais au prorata du résultat quand même.
Bien sûr. Mmh. Et ça devient indirect, si vous voulez, le jour où les délégués se rendent au conseil communautaire pour, à leur tour, élire à la fois un président, un bureau et des vice-présidents qui seront appelés à avoir des délégations en charge. Voilà.
Alors on a expliqué grosso modo quelles sont les compétences. Elles sont aujourd'hui énormes par rapport à celles anciennement des communes. Mais il y a ce qu'on remarque et ce que déplore Michel, et je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus, c'est que dans les programmes municipaux habituels, on fait l'impasse relativement ou même totalement sur ce qu'on va faire ou quelles sont les intentions de l'élu dans cet agglo, dans ce Grand Narbonne en ce qui nous concerne, nous.
Ou surtout, quel est le bilan de l'agglo sur les 6 ans qui viennent de passer lorsqu'on fait le bilan. Je vous en parle simplement parce qu'actuellement,
on peut commencer par là.
Et en sortant, la campagne démarre aujourd'hui, vous l'avez vu dans la presse, j'ai officialisé ma candidature, tout simplement parce que je pense qu'un maire qui est en charge des affaires d'une ville doit d'abord gérer, et puis ensuite s'occuper des élections quand elles arrivent pendant le temps de l'élection. Aujourd'hui, force est de constater que dans les bilans, on aperçoit assez peu l'action du Grand Narbonne. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de compétences importantes qui régissent notre quotidien. Eau, assainissement, ça a été dit, enlèvement des ordures ménagères, etc. Tout un tas d'équipements les cœurs de ville. L'agglo est intervenu sur des enveloppes forfaitaires qui ont été délivrées à chaque commune pour la durée du mandat. Les traversées de village.
Les transports, l'ensemble des transports.
Et les transports, bien entendu, qui vous intéressent au premier lieu intramuros à Narbonne, mais qui intéressent aussi tous les petits villages et les villes moyennes qui sont autour. En matière de transport, l'autre jour, nous avons travaillé en commission de DSEP à la citadine numéro 3. Donc, l'aglo est présente dans tout le quotidien.
La citadine, c'est une navette. Hein,
voilà, une navette
gratuite.
Absolument.
Sur Narbonne.
Voilà. Et donc, ce sont 79 élus, c'est le nombre exact, qui vont représenter 37 communes sur le territoire du Grand Narbonne. La ville-centre, disposant de 32 élus, n'a pas tout à fait la majorité. Et donc, ce sont c'est l'ensemble, si vous voulez, de toutes les possibilités électives des autres communes qui peuvent créer donc un bureau communautaire, élire un président qui, d'ailleurs, la dernière fois, et ce fut assez atypique, j'en suis le co-auteur, je pense, a vu élire un président d'agglo qui n'était pas le maire de la ville-centre, ouais, comme le veut ou le voudrait la tradition.
Qu'il ne l'était pas, mais qui avait perdu l'élection.
Et qui avait perdu l'élection, car, bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais force est de constater d'abord que, et je parle pour Port-la-Nouvelle et en ce qui me concerne, j'ai été très bien accueilli à l'agglo par, à l'époque, Jacques Bascou et les élus qui étaient en place, pour pouvoir avoir eu envie d'échafauder avec lui une stratégie à venir, et étant maire socialiste de Narbonne, à Narbonne, je voyais mal comment M. Bascou pouvait perdre l'élection. Je n'ai pas compris avant, je ne suis pas trop devin à la matière, comment Michel Moynier avait pu la perdre, parce que Michel Moynier donc a été élu 2 fois, une fois donc en cours de mandat par son prédécesseur, et puis il est revenu devant le suffrage universel, il a été élu sans aucune ambiguïté, et il était porteur d'un projet qui, à mon avis, était très intéressant. C'était un projet de développement durable qui était les quartiers de la Robine, avec le fameux aspirateur.
Aujourd'hui, la ZAC de la Robine.
Voilà, avec un quartier énergie positive. Et j'avais trouvé ce projet tellement téméraire qu'il a effrayé certainement beaucoup de monde.
Probablement trop téméraire.
Et peut-être qu'il s'est fait attraper là-dessus. Non, mais c'est dommage parce que et Michel Moynier était quelqu'un de très narbonné. Je peux vous dire que si je ne suis pas rentré à l'agglo avant, c'est parce que je ne me sentais pas du tout à l'aise, parce que je sentais rentrer dans un milieu qui n'était pas forcément défavorable, mais qui n'était pas très accueillant. Et le partage n'était pas la première des vertus. Voilà, mais ce fut un bon maire. Donc, Bascou renverse Moynier, et je ne pensais pas que les Narbonnais se repaient encore une nouvelle fantaisie en renversant Bascou. Il a quand même réalisé centre-ville, toute la réflexion débarque. Pour un regard extérieur, c'est quand même très positif. Et donc, nous avions convenu avec lui d'une période de gouvernance au cours de laquelle, et Georges Frêche avait fait partie de l'arrangement, il y avait donc entre autres l'aménagement du port de la Nouvelle. Voilà pourquoi j'ai soutenu le maire perdant qui a perdu à l'agglo.
Voilà, et ce qui vous avait valu à l'époque, et encore maintenant peut-être, l'étiquette de faiseur de roi. moi. Mais bon, elle est plaisante, mais elle a quand même une partie de vérité. Seulement maintenant, vous tirez les leçons justement de cette, parce que vous avez vu aussi les conséquences.
Ben, les conséquences, c'est que ceux qui ont perdu la mairie l'ont perdu pendant 6 ans et ont ruminé cette défaite pour certains. Ceux qui ont gagné la mairie ne se sont peut-être pas aperçus au départ de l'importance qu'elle avait en termes d'agglomération, vous en parliez tout à l'heure, et eux aussi étaient porteurs d'une espèce de victoire peut-être surestimée et surévaluée, et bon, les égos ont plus ou moins cohabité. Sur les 2-3 premières années, je dois dire même que ça a été assez difficile et assez dur à pouvoir accepter de la part des communes qui n'étaient pas narbonnaises.
Oui, c'est-à-dire que Nouveau-Narbonne n'avait pas véritablement envisagé ce qu'était l'agglo et ce qu'il fallait y faire.
Je pense qu'il l'avait envisagé,
mais pas suffisamment.
Il pensait peut-être que des revirements de situation ponctuelle ou des revirements d'engagement de certains élus auraient pu leur être favorables. Oui. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de tenir sa parole. C'est vrai qu'en politique, c'est assez particulier comme microcosme, mais j'ai toujours tenu mes engagements et j'avais pris des engagements avec Jacques Bascou. Il n'y avait aucune raison que je m'en dédise.
Alors aujourd'hui, donc maintenant, certains, je dis bien certains, acceptent de venir en parler, comme vous, Henri Martin. Alors il reste forcément la question, un programme, ce qu'on va faire, comment on va faire, mais qui le fera ? Parce que forcément, ça passe toujours quand même par les hommes, enfin les hommes et les femmes, par les gens.
Le premier des défauts de l'agglo tel que nous voulons de la vivre pendant ces 6 dernières années, c'est que la ville-centre en fut complètement écartée, pratiquement complètement écartée. Heureusement que les techniciens, contrairement à ce que l'on peut dire, ont continué à travailler entre eux. Heureusement qu'il est resté encore des ponts, des liaisons, des téléphones rouges qui ont subsisté, parce que le climat était quand même assez pénible. Donc demain, il faut en tirer les conséquences, et demain, nul ne peut faire l'économie de penser que la ville-centre doit faire pleinement partie de la prérogative de gouvernance. Bien. Ça ne veut pas dire que le président de l'agglo
doit être automatiquement
le maire de Narbonne. Je dirais même que il est souhaitable que ce soit pas le maire de Narbonne, et que ça ne soit pas un maire d'ailleurs. Quelqu'un peut se faire élire dans sa mairie, et dans sa grande sagesse, dire voilà, puisqu'on me confie la présidence de l'agglo, je confie à l'un de mes adjoints les affaires de la ville, parce que c'est très prenant, et que je ne peux pas mener les deux choses à la fois. Je peux vous garantir, je connais l'emploi du temps du président d'agglo, je connais l'emploi du temps du maire d'une ville moyenne comme moi.
C'est devenu difficilement conciliable. Oui. Donc ça, vous l'aviez d'ailleurs déjà exprimé, Henri Martin. Mais alors, je vais vous retourner la question. Les hommes, qui ? Bon, ça, vous souhaitez que ça ne soit pas un maire. Est-ce que ça sous-entend, par exemple, que vous excluez automatiquement de cette possibilité de candidater ?
Forcément, Jean-Claude, il pourrait très bien être élu, faire conseiller communautaire, et puis démissionner de son mandat de maire, et puis se faire élire pour
la gouverne. Ah oui, vu comme ça.
Voilà, absolument. Mais Philippe va être candidat à la mairie du Havre et continuer à exercer les prérogatives de Premier ministre, donc qui va continuer à exercer la fonction de Premier ministre et pouvoir le retrouver après.
Oui, voilà. En admettant qu'il y ait cette volonté
voilà.
de...
Voilà. Me concernant, je ne vous cacherai pas que j'ai été approché à plusieurs reprises, aussi bien par des élus de gauche que de centre, du milieu, etc.
Bon, parce que vous sembliez faire un certain consensus, ce qui semblerait souhaitable.
Le consensus continue à pouvoir se faire autour de ma personne, mais est-ce la solution ? Pourquoi parler de consensus et de ne pas parler de programme de gouvernance ? La démocratie, c'est quelque chose qui s'exprime horizontalement au moment du scrutin et qui doit s'exprimer verticalement au moment de l'exercer. Donc, consensus, pourquoi ? Non, je crois surtout que, et c'est la seule chose que je peux vous livrer aujourd'hui, c'est que la seule formation candidate à la ville de Narbonne qui m'est approchée, c'est la liste de Nouveau-Narbonne qui est venue me dire « Henri, tu sais, on aimerait bien que tu envisages la possibilité de prendre la présidence, etc. » Je ne vous dis pas ce que j'ai répondu, parce que je ne suis pas demandeur de cette présidence, soyons clairs. Mais simplement, j'ai été à la fois certainement flatté, mais je pense que ce sont les seuls qui ont manifesté implicitement l'intention de voir présider l'agglo par un maire extérieur à la couronne narbonnaise immédiate.
Voilà, et en tirant la leçon de 2014 qu'on a largement exposée. Pour conclure, Henri Martin, bon, même si, alors, vous deviendrez peut-être président, mais même si vous ne l'êtes pas, vous continuerez à jouer un rôle sans doute primordial dans cette agglomération. À votre avis, que faudra-t-il faire ? une fois que vous serez en place et que vous gouvernerez, pour que véritablement les citoyens comprennent ce qu'est l'agglo au quotidien et aient envie de s'y intéresser et comprennent qu'il ne faut plus aller voir le maire si on a un problème d'eau ou d'assainissement ou de transport.
Je crois que la loi qui a été évoquée tout à l'heure par Michel Santos sur l'engagement et proximité va faire que l'agglo va s'infiltrer dans la vie quotidienne, même des conseils municipaux. Il y aura beaucoup plus de transparence, tous les élus seront informés des travaux qui interviennent, etc. Donc la chose se fera assez automatiquement. Mais je crois qu'au-delà du fait de savoir et d'aiguiller les gens vers le Grand Narbonne, ce qui n'est peut-être pas la première des choses à faire, nous restons quand même des boîtes aux lettres, nous restons en première ligne lorsqu'il peut y avoir des problèmes. Quand une poubelle est renversée, on ne va pas appeler le président de Grand Narbonne pour qu'il vienne la relever. Le maire va rester et restera toujours en première ligne avec ses concitoyens. Mais je crois qu'il faut expliquer la mécanique, il faut expliquer la fiscalité à partir de laquelle vit une agglomération comme celle du Grand Narbonne. Et il faut expliquer et décomplexer les petites communes par rapport à l'agglo, et du côté de la ville-centre, qu'elle explique bien à toutes les petites communes qu'elle n'est pas là pour les écraser, bien au contraire, faire preuve de solidarité. Et je crois que sur le programme de gouvernance du prochain président de l'agglomération du Grand Narbonne, il faut qu'il y ait des engagements clairs, nets et précis, des contrats avec les petites villes. Et à partir de là, une fois qu'ils auront été rassurés sur ce qu'ils pourront se voir adosser comme investissement ponctuel dans leur commune, ils seront beaucoup plus décontractés et ils verront moins mauvais œil arriver la ville-centre aux prérogatives de la gouvernance.
Voilà, et bien c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci Henri Martin. Alors, bien entendu, il faudra communiquer. Donc j'imagine que vous soyez président ou quelqu'un d'autre, nous continuerons à Radio Barque à parler largement et à recevoir les présidents d'agglomération. Nous continuons, comme je le disais, sur la même lancée. Et nous recevrons la prochaine fois Monsieur Malquier, Bertrand Malquier, qui lui, justement, a beaucoup travaillé et a clairement exposé qu'il s'intéressait à l'agglo, après quoi nous recevrons le maire de Bise, Alain Fabre, qui pourrait lui aussi être intéressé, et nous finirons pour parler du sujet, sans les engager plus au-delà, par le maire de Saint-Marcel aujourd'hui, qui est Guillaume Heras. Merci de nous avoir suivis, en espérant avoir donné un peu plus le goût de l'agglo et de la future agglo du Grand Narbonne à nos auditeurs, et à la semaine prochaine.